Walter Scott, Quentin Durward, chapitre 22, le héros. On fit de la place dans l'assemblée, et les assistants attendirent avec la plus vive curiosité le héros que les liégeois insurgés avaient l'audace d'envoyer à un prince aussi hautain que le duc de Bourgogne. Et cela au moment où il était le plus indigné contre eux. Car il faut se rappeler qu'à cette époque, les princes souverains seuls s'envoyaient des héros dans les circonstances solennelles. Les nobles d'un rang inférieur employaient des poursuivants. Le héros que l'on introduisit en présence des princes était revêtu d'un tabard ou surcot, brodé des armes de son maître, dans lesquelles la hure de sanglier jouait un grand rôle, trop grand, au dire des connaisseurs. Le reste de son costume était surchargé de dentelles, de broderies et d'ornements de toute espèce, et les grettes de plumes qu'il portait étaient d'une hauteur démesurée. En somme, la splendeur éclatante du costume du héros tournait ici à la charge et à la caricature. Il y avait dans l'extérieur de l'homme un mélange de hardiesse et d'appréhension, comme si, chargé d'une commission dangereuse, il savait bien ne pouvoir s'en tirer qu'en payant d'audace. Il y avait aussi quelque chose de ce mélange de peur et d'effronterie dans la manière dont il fit son salut. C'était un embarras grotesque, tel que n'en éprouvent point ceux qui ont l'habitude d'être admis en la présence des princes. Qui es-tu, au nom du diable? Voilà en quels termes Charles souhaita la bienvenue à ce singulier envoyé. Je suis Sanglier Rouge, répondit le héros, officier d'armes de Guillaume de la Marck, par la grâce de Dieu, et l'élection du chapitre prince-évêque de Liège. Ah! Fit Charles. Mais surmontant sa colère, il fit signe à l'autre de continuer. Et du droit de sa femme, l'honorable comtesse Ameline de Croix, comte de Croix et seigneur de Braquemont. La stupéfaction de Charles devant cette énumération de titres semblait l'avoir rendu muet. Le héros, se figurant sans doute avoir produit une grande impression en faisant connaître son caractère, se mit en devoir de s'acquitter de sa mission. Annuntio vobis gaudium magnum, dit-il. Charles de Bourgogne, comte de Flandre, au nom de mon maître, je vous fais à savoir que, par dispense de notre Saint-Père de Rome, présentement attendu, et, appointant un substitut autorisé ad sacra, mon dit maître se propose de remplir immédiatement l'office de prince-évêque et de maintenir ses droits comme comte de Croix. Le duc de Bourgogne, à chaque pose du héros, se contentait de dire « Ah !» ou de pousser toute autre interjection de même nature, mais sans faire de réponse. Le ton dont il poussait ces exclamations était celui d'un homme qui, malgré sa surprise et sa colère, veut entendre tout ce que l'autre a à dire avant de se commettre en lui adressant une réponse. Au grand étonnement de toute l'assistance, il s'abstint des gestes brusques et violents dont il avait l'habitude, tenant l'ongle de son pouce pressé contre ses dents, ce qui était son attitude favorite quand il prêtait toute son attention. Il restait les yeux fixés sur le sol, ne voulant pas laisser paraître la colère qu'ils exprimaient. L'envoyé donc continua hardiment à donner connaissance de son message. Au nom du prince-évêque de Liège, comte de Croix, je vous requiers, duc Charles, de renoncer à vos prétentions et aux empiétements que vous avez faits sur la cité libre et impériale de Liège, avec la connivence de feu Louis de Bourbon, un digne évêque de cette ville. Ah! En plus de réparer les brèches des murailles et de refaire les fortifications que vous avez tyranniquement démantelées, et de reconnaître mon maître, Guillaume de la Marck, comme prince-évêque, légalement élu dans un chapitre libre de chanoines, dont procès-verbal que voici. Avez-vous fini? Demanda le duc. Pas encore, répondit l'envoyé. J'ai de plus à requérir de votre grâce, de la part du dit noble et vénérable prince-évêque et comte, de retirer immédiatement la garnison du château de Braquemont et autres places fortes appartenant au comte de Croix, et qui y ont été introduites, soit en votre gracieux nom, soit à celui d'Isabelle, soi-disant comtesse de Croix, soit en tout autre nom, jusqu'à ce qu'il ait été décidé par la diète impériale, si les fiefs en question ne doivent pas appartenir à la sœur du feu comte, ma très gracieuse dame Ameline, plutôt qu'à sa fille, en vertu du jus amphiteusis. Votre maître est bien savant, répliqua le duc. Néanmoins, continua le héros, le vénérable prince et comte sera disposé, toute autre discussion réglée entre la Bourgogne et Liège, à accorder à la dame Isabelle tel apanage qui pourra convenir à sa qualité. Est-ce bien tout cette fois? Demanda le duc au héros. Encore un mot, répondit Sanglier Rouge, de la part de mon noble et vénérable seigneur, au sujet de son digne et fidèle allié, le roi très chrétien. Ah! S'écria le duc, d'un ton encore plus farouche. Mais se contenant aussitôt, il se disposa à écouter avec plus d'attention encore. Dont la personne aurait été, dit-on, séquestrée par vous, Charles de Bourgogne, contrairement à votre devoir comme vassal de la couronne de France, et à la fois observé entre princes chrétiens. Pour laquelle raison, mon dit noble et vénérable maître, par ma bouche, vous requiert de mettre immédiatement en liberté son royal et fidèle allié, sinon de recevoir le défi que je suis autorisé à vous porter. Avez-vous fini? Demanda le duc. Oui, répondit le héros, et j'attends la réponse de votre grâce, espérant qu'elle sera de nature à éviter l'effusion du sang chrétien. Eh bien, par Saint Georges de Bourgogne! S'écria le duc. Mais sans lui laisser le temps d'en dire plus long, Louis se leva et prit la parole avec tant de dignité et d'autorité qu'il fut impossible à Charles de l'interrompre. Avec votre permission, beau cousin de Bourgogne, dit le roi, nous demandons la priorité de la parole pour répondre à ce drôle insolent. Coquin de héros, ou qui que tu sois, fais savoir à ce bandit, à cet assassin de Guillaume de la Marck, que le roi de France sera avant peu sous les murs de Liège, à l'effet de venger le meurtre sacrilège de feu son bien-aimé parent, Louis de Bourbon, qu'il se propose de faire accrocher tout vif Guillaume de la Marck au gibet, pour avoir eu l'insolence de l'appeler son allié, et de mettre son royal nom dans la bouche d'un de ses vils messagers. Ajoute de ma part, dit Charles, tout ce qui n'est pas inconvenant à un prince de dire à un vulgaire voleur et à un meurtrier. Va-t'en, ou plutôt, reste. Jamais héros n'est venu à la cour de Bourgogne sans avoir lieu de crier « Largesse !» Qu'on le fouette jusqu'à ce qu'il ait les os à nu. « Plaise à votre grâce, » dirent à la fois Crèvecœur et d'Hymbercourt. « C'est un héros, et comme tel, il a des privilèges. » C'est vous, messire, qui êtes assez aveugle pour croire que le tabac fait le héros. Je vois aux armoiries de ce drôle que c'est un imposteur. Que Toison d'Or s'avance et le questionne devant moi. En dépit de son effronterie naturelle, l'envoyé du sanglier des Ardennes pâlit sous les quelques couches de rouge dont il avait orné son visage. Toison d'Or s'avança, avec la gravité d'un homme qui connaît l'importance de sa fonction, et demanda à son soi-disant confrère dans quel collège il avait étudié la science héraldique. J'ai fait mes études comme poursuivant au collège héraldique de Ratisbonne, répondit Sanglier Rouge, et j'ai reçu mon diplôme d'Ehrenvold, un des membres de cette savante confrérie. Vous ne pouviez pas puiser la science à une source plus pure, répondit Toison d'Or, en faisant un salut cérémonieux. Et si je me permets de conférer avec vous sur les mystères de notre science sublime, pour me conformer aux ordres de notre très gracieux duc, c'est avec l'espoir d'apprendre et non d'enseigner. Va donc, lui dit le duc avec impatience, laisse de côté la cérémonie et pose-lui quelques questions pour qu'il nous montre son savoir. Ce serait faire injure à un disciple du digne collège d'armes de Ratisbonne que de lui demander s'il comprend les termes ordinaires du blason. Dit Toison d'Or. Mais je puis demander sans offense à Sanglier Rouge de me dire s'il est instruit des termes plus mystérieux et plus secrets de la science, à l'aide desquels les savants expriment par emblème et pour ainsi dire par parabole, ce que le commun des mortels exprime en langue vulgaire. Je connais également bien l'un et l'autre blason, répondit hardiment Sanglier Rouge. Mais il se peut qu'on n'emploie pas les mêmes termes en Allemagne et en Flandre. Comment pouvez-vous dire cela? Répliqua Toison d'Or. Notre noble science, qui est vraiment la bannière de la noblesse et la gloire de la générosité, étant la même dans tous les pays chrétiens, que dis-je, connue et acceptée même des Sarrasins et des Maures. Je vous prie donc de vouloir bien me blasonner n'importe quel écusson, à la manière céleste, c'est-à-dire à l'aide des planètes. Blasonnez-le vous-même, si vous voulez, riposta Sanglier Rouge. Je ne vais pas, sur commandement, exécuter de ces tours de singe. Montrez-lui un écusson, et qu'il le blasonne à sa manière, dit le duc. Et s'il n'y réussit pas, je lui promets que son dos sera de gueule, d'azur et de sable. Eh bien, reprit le héros de Bourgogne, tirant un parchemin de sa poche, voici un rouleau où, pour de certaines raisons, j'ai dessiné le moins mal que j'ai pu un ancien écusson. Je prierai mon frère, s'il appartient réellement à l'honorable collège d'armes de Ratisbonne, de le déchiffrer en se servant des termes usités. Sanglier Rouge hésita. Écoutez, vilain, dit le duc de son ton le plus rude, connaissez-vous la différence entre argent et or? Et je ne parle pas, bien entendu, des pièces de monnaie. Par pitié, votre grâce, soyez indulgent pour moi. Noble roi Louis, parlez en ma faveur. Parle pour toi-même, reprit le duc. En un mot, es-tu ou n'es-tu pas héros? Seulement pour cette fois-ci, répondit le malheureux. Allons, qu'on le traîne à la place du marché, qu'on le sangle à coups de bride et de fouet à chien, jusqu'à ce que son tabard lui pende en guenilles autour du corps, suce au sanglier rouge. Ça, allô, allô! Quatre ou cinq grands chiens de chasse, de ceux que l'on voit dans les tableaux où Rubens et Snyders ont travaillé ensemble, entendant les notes bien connues par lesquelles le duc avait terminé son discours, se mirent à hurler et à aboyer, comme si l'on venait de faire lever un sanglier de sa bauge. « Par le crucifix, dit le roi Louis, cherchant à flatter la manie de son cousin. Puisque l'âne s'est revêtu de la peau du sanglier, moi je mettrai les chiens à ses trousses pour l'en faire sortir. « Parfait, parfait, s'écria le duc Charles, dont l'humeur, pour le moment, donna en plein dans cette fantaisie. « C'est ce que nous allons faire. Taillot, Taillot, Tabolt, Taillot, Beaumont. Nous allons lui donner la chasse depuis le château jusqu'à la porte de l'Est. J'espère que votre grâce me traitera comme une bête de chasse et me donnera beau jeu, répliqua le pauvre diable, faisant contre mauvaise fortune beau visage. Tu n'es qu'une vermine, dit le duc, et le texte du livre de chasse ne t'accorde aucun privilège. Mais tu auras 6 pas d'avance, ne fût-ce qu'à cause de ton impudence sans pareille. En avant, messire, il faut que nous voyions cela. » L'assemblée se sépara en tumulte, et nul ne courait plus vite que les deux princes pour assister au spectacle plein d'humanité dont Louis avait donné l'idée. Le sanglier rouge ne trompa pas leur attente. Comme la terreur lui donnait des ailes, et qu'il avait à ses trousses 5 ou 6 chiens de vautrait, excités par le bruit des cors et les cris de chasse, il fuyait comme le vent, et s'il n'eût été embarrassé de son tabard, vêtement peu commode pour courir, il se serait tiré de là sain et sauf. Il fit même 2 ou 3 crochets qui eurent l'approbation des spectateurs. Personne, pas même Charles, ne prenait plus de plaisir à ce jeu que Louis, qui, moitié par des considérations politiques, moitié par le plaisir qu'il prenait naturellement au spectacle de la souffrance humaine, quand elle prenait une forme comique, riait aux larmes, et dans une extase de joie, s'accrochait au manteau d'hermine du duc, comme pour s'empêcher de tomber. Le duc, de son côté, aussi charmé que le roi, lui avait passé le bras autour des épaules. Ces témoignages de confiance sympathique et familière formaient un singulier contraste avec leur attitude de tout à l'heure. À la fin, l'agilité du pseudo-héros ne put le sauver plus longtemps de l'atteinte des chiens. Ils le saisirent, le renversèrent, et l'auraient mis en pièces si le duc n'avait pas crié. Assez, retirez-les de dessus lui. Il a bien couru. Et quoiqu'il se soit montré peu divertissant aux abois, nous ne voulons pas qu'on le dépêche. Quelques officiers se mirent en devoir de retirer les chiens. Quelques-uns se laissèrent coupler. Les autres se firent poursuivre à travers les rues de la ville, secouant triomphalement les lambeaux du costume que le malheureux avait revêtu dans son heure fatale. Pendant que le duc était trop occupé de ce qui se passait devant lui pour entendre ce qui se disait derrière, Olivier le Daim se glissa près du roi Louis et lui dit à l'oreille. C'est le bohémien, Erdin Maugrabin. Ce serait une mauvaise affaire s'il venait à parler au duc. Il faut qu'il meure, répondit Louis, également à voix basse. Les morts ne racontent point d'histoire. Un instant après, Tristan l'ermite, à qui Olivier avait donné le mot, s'avança en présence du roi et du duc, et dit de son ton bourru. Plaise à votre majesté et à votre grâce, ce gibier est à moi, et je le réclame. Il est marqué de mon estampille, la fleur de lys, imprimée au fer rouge sur l'épaule, comme tout le monde peut le voir. C'est un scélérat avéré. Il a assassiné les sujets du roi, volé les églises, tué des daims dans les parcs royaux. Assez, assez, s'écria le duc Charles. Il est, à plus d'un titre, la propriété de mon royal cousin. Qu'est-ce que votre majesté veut faire de lui? Si j'en puis disposer, dit le roi, je lui donnerai du moins une leçon de blason, puisqu'il le sait si mal. Je lui montrerai par la pratique ce que c'est qu'une croix potencée avec un beau nœud coulant. Ah, Louis, Louis, s'écria le duc. Plût à Dieu que tu fusses monarque aussi loyal que tu es joyeux compagnon. Je ne puis pas m'empêcher de repenser souvent aux bonnes heures que nous avons passées ensemble autrefois. Vous pouvez les ramener quand il vous plaira, répondit Louis. Je vous concéderai tout ce que vous pourrez décemment me demander, dans la position où je suis, sans vous rendre la fable de la chrétienté. Je jurerai de tenir mes engagements, oui. Je le jurerai sur la sainte relique que j'ai toujours la grâce de porter sur moi. C'est un fragment de la vraie croix. Il tira alors un petit reliquaire d'or, suspendu à son cou par une chaîne du même métal. Après l'avoir baisé dévotement, il continua. Jamais faux serment juré sur cette relique n'a manqué d'être puni dans le cours de l'année. Eh bien, dit le duc, voulez-vous me jurer de bonne foi, sans arrière-pensée, de venir avec moi punir cet assassin de la marque et les liégeois? Je marcherai contre eux, dit Louis, avec le banc et l'arrière-banc de France, oriflamme déployée. Non, non, reprit le duc, c'est plus qu'il n'est nécessaire, et même prudent. La présence de votre garde écossaise et de 200 lances d'élite suffira pour prouver que vous venez à Liège sans y être contraint. Et pour en finir avec une autre cause de discorde, vous autoriserez le mariage de la comtesse Isabelle de Croix avec le duc d'Orléans. Beau cousin, répliqua le roi, vous poussez ma courtoisie à bout. Le duc d'Orléans est le fiancé de ma fille Jeanne. Soyez généreux, cédez sur ce point et parlons plutôt des villes de la Somme. Mon conseil s'en entretiendra avec votre majesté, dit Charles. Quant à moi, j'ai moins à cœur un accroissement de territoire que le redressement des injures. Vous vous êtes mêlé des affaires de mes vassaux, et voilà votre majesté obligée de disposer de la main d'une pupille de Bourgogne. Vous ne pouvez pas faire moins que de la marier dans votre propre famille, maintenant que vous vous êtes occupé de cette affaire. Sinon, brisons-la. Si je disais que je cède de bon cœur, reprit le roi, personne ne voudrait me croire. Donc, mon cousin, jugez de mon désir de vous plaire quand je vous dirai, bien à contre-cœur, si les parties sont consentantes, si l'on peut obtenir dispense du pape, je ne m'opposerai pas à l'union que vous proposez. Tout le reste peut être arrangé par nos ministres, s'écria le duc, et nous voilà redevenus cousins et amis. Le ciel soit loué, répondit Louis. Olivier, ajouta-t-il en s'adressant en aparté à ce favori, qui était pour lui comme le démon familier du sorcier. « dit à Tristan d'en finir au plus vite avec ce vagabond de bohémien. Erdin Maugrabin, livré par les officiers du duc au prévôt du roi, fut placé par ce dernier entre les mains de ses deux fidèles aides de camp, Trois Échelles et Petit André, pour être expédié sans délai. Marchant entre eux deux, et suivi de quelques gardes et d'une multitude de gens de rien, il fut conduit à la forêt voisine. Les deux acolytes voulaient s'épargner l'embarras et le cérémonial d'un gibet en accrochant leur patient au premier arbre qui fera leur affaire. Ils ne furent pas longs à trouver un chêne digne d'un tel gland, selon l'expression facétieuse de Petit André. Laissant le malheureux criminel sous la surveillance de quelques gardes, les deux compères firent à la hâte les préparatifs requis pour la catastrophe finale. À ce moment, Erdin, promenant ses regards sur la foule, rencontra les yeux de Quentin Durward. Notre ami, en effet, croyant reconnaître la physionomie de son guide infidèle, l'avait suivi avec la foule pour être témoin de l'exécution et s'assurer de son identité. Quand les bourreaux lui annoncèrent que tout était prêt, Erdin, avec beaucoup de calme, leur demanda une seule faveur. « Tout ce qui ne sera pas contre notre devoir, mon fils, » lui dit Trois Échelles. « Comme vous paraissez disposé à mourir en homme, sans grimace, eh bien, quoi qu'on nous ait commandé d'être expéditif, je ne regarde pas vous accorder 10 minutes de plus. » « Vous êtes même trop généreux, » répondit Erdin. « On nous en blâmera peut-être, » dit Petit André. « Mais ma foi, tant pis. Je vous demande la faveur de parler pendant quelques minutes à ce jeune archer écossais que je vois là-bas. » Les deux compères hésitèrent un moment, mais Trois Échelles, se rappelant que Quentin passait pour être fort avant dans la faveur de leur commun maître, le roi Louis, ils permirent l'entrevue. Lorsque Quentin s'approcha du condamné, il fut pris de pitié à sa vue, quelque juste que fût l'arrêt qui le condamnait. Les restes de son brillant costume de héros, déchiré en lambeaux par la dent des chiens et la main des hommes qui l'avaient arraché à leur furie, lui donnaient un air à la fois ridicule et pitoyable. Sa face était défigurée par la peinture et par les restes d'une fausse barbe qui lui avait servi à se déguiser. Ses joues et ses lèvres étaient d'une pâleur mortelle. Cependant, comme la plupart des gens de sa race, il montrait une sorte de courage passif. Son regard brillant qui errait çà et là, et le sourire qui entourait ses lèvres, semblaient mettre au défi la mort qu'il allait endurer. Quentin, saisi d'horreur et de compassion, s'avançait sans doute trop lentement au gré de Petit André, qui lui cria. « Un peu plus vite, joli archer, ce gentilhomme n'a pas de temps à perdre, et l'on dirait que vous marchez sur des œufs. » « Il faut que je lui parle en particulier, » dit le criminel, dont le désespoir donnait à sa voix un son rauque. « Je ne sais pas si nous pouvons permettre cela, » répondit Petit André. « On vous sait de longue date capable de glisser entre les doigts des gens comme une anguille. « J'ai les pieds et les poings liés avec vos sangles de cheval, » répondit le criminel. « Vous pouvez me surveiller, mais hors de la portée de la voix. L'archer est au service de votre roi. Et si je vous donne 10 pièces d'or, dépensez en messe, dit Trois Échelles, cette somme peut profiter à sa pauvre âme. Dépensez en vin et en brandevin, répondit Petit André, elle profitera à mon pauvre corps. Voyons les 10 pièces d'or. Paye ses limiers, dit Erdin à Durward. On m'a tout pris quand j'ai été arrêté. Paye, tu n'auras pas à regretter ton argent. Une fois payés, les bourreaux, gens de parole, se retirèrent à distance sans cesser de suivre de l'œil les moindres mouvements du criminel. Comme Erdin gardait le silence, ce fut Quentin qui lui adressa la parole le premier, avec un mélange d'horreur et de pitié. « Dis-moi ce que tu as à me dire et abandonne-toi à ton destin. J'ai à vous révéler un secret important. Guillaume de la Marque a assemblé une armée forte et nombreuse dans la ville de Liège. Cette armée, il l'accroît tous les jours, grâce au trésor du vieux prêtre. Mais il n'a pas l'intention de risquer une bataille contre la chevalerie de Bourgogne, ni de soutenir un siège dans la ville démantelée. Voici ce qu'il fera. Il laissera cet écervelé de Charles camper devant la ville, sans opposer aucune résistance. Mais la nuit, il fera une sortie avec toutes ses forces. Beaucoup de ces gens, revêtus d'armures françaises, crieront France, Saint-Louis, Montjoie, Saint-Denis, pour faire croire qu'il y a dans la ville un corps nombreux d'auxiliaires français. Cela ne manquera pas de jeter la plus grande confusion dans les rangs des Bourguignons, et si le roi Louis, avec ses gardes, sa suite et ses soldats, qu'il aura avec lui, seconde ses efforts, le sanglier des Ardennes ne doute pas de la pleine déconfiture de l'armée bourguignonne. Voilà mon secret, et je vous le donne. Secondez l'entreprise ou faites-la échouer. Vendez le secret au roi Louis ou au duc Charles, je ne m'en soucie guère. Quant à moi, tout ce que je regrette, c'est de ne pas faire sauter tout cela comme une mine pour les détruire tous. C'est à coup sûr un important secret, dit Quentin, comprenant avec quelle facilité la jalousie nationale pouvait être excitée dans un camp composé de Français et de Bourguignons. Oui, c'est un secret important, répondit Herdain. En retour, je vous prie de m'accorder une faveur. Dis-moi ta requête, et je ferai ce que tu me demanderas, si cela est en mon pouvoir. Ce n'est pas grand-chose. C'est seulement à propos du pauvre Clépeur, mon cheval, la seule créature à qui je manquerai. À un bon mille d'ici, au sud, vous le trouverez près d'une hutte de charbonnier abandonnée. Sifflez comme ceci, et appelez-le par son nom, Clépeur, et il viendra à vous. J'ai là sa bride sous mon vêtement. Il est heureux que ses limiers ne l'aient pas prise, car il n'en souffrirait pas une autre. Prenez-le, ayez-en bien soin. Je ne dis pas pour l'amour de son maître, mais parce que j'ai remis entre vos mains l'issue d'une grande guerre. Il ne vous fera jamais défaut quand vous aurez besoin de lui. Si j'avais pu gagner les portes de Péronne et arriver jusqu'à lui, je n'en serais pas où j'en suis. Serez-vous bon pour Clépeur? Je le jure, répondit Quentin, touché de ce trait de tendresse dans un cœur si endurci. Alors adieu, dit le criminel. Mais arrêtez, arrêtez. Je ne voudrais pas mourir en homme discourtois, oubliant la commission d'une dame. Ce billet de la très gracieuse et extrêmement sotte dame du sanglier des Ardennes est pour sa nièce aux yeux noirs. Je vois à votre figure que je ne pouvais trouver un messager mieux disposé. Et encore un mot. Dans la bourre de ma selle, vous trouverez une bourse remplie de pièces d'or. C'est pour l'amour de cet or-là que je me suis lancé dans une aventure qui me coûte si cher. Prenez cet or, en échange de celui que vous venez de donner à ces esclaves sanguinaires. Je fais de vous mon héritier. J'emploierai cet or en bonnes œuvres et en messe pour le repos de ton âme, dit Quentin. Ne répétez pas ce mot-là, riposta Herdain, et sa figure prit une expression terrible. Cette chose-là n'existe pas, ne peut pas, ne doit pas exister. C'est une rêverie de vos prêtres. Allez-vous-en, ne me dérangez pas plus longtemps. J'ai dit le dernier mot qu'entendront des oreilles mortelles. Profondément ému de l'horreur de sa situation, Quentin du Roard comprit pourtant qu'il serait impossible d'éveiller en lui le sentiment de son état affreux. Il lui dit donc adieu. L'autre ne répondit que par un petit signe de tête maussade, comme un homme qui, plongé dans une profonde rêverie, dit adieu à un compagnon qui trouble ses réflexions. Quentin se dirigea rapidement vers la forêt et trouva sans peine l'endroit où Clépeur était en train de paître. Le cheval accourut à son signal. Mais il fut assez long à vouloir se laisser prendre, soufflant et se reculant quand l'étranger s'approchait de lui. Enfin, grâce à la connaissance qu'il avait des chevaux en général, et de Clépeur en particulier, il finit par entrer en possession du legs du bohémien.